C'est par où demain, c'est par où demain, c'est par où demain.
C'est par où demain.
Qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit mollo sur le destroy.
C'est par où demain.
L'émission qui fait du bien. Surtout aux éco-anxieux.
Bonjour, vous êtes bien sur Radioactive dans l'émission C'est par où demain. Une émission co-animée par les membres du groupe local Extinction Rebellion Saint-Brieuc. Dans cette émission, nous tentons de décortiquer avec vous les différentes limites d'habitabilité de la Terre pour l'homme. Nous tentons d'en analyser les tenants et les aboutissants en allant à la rencontre des Costes armoricains et Costes armoricaines qui œuvrent au quotidien pour une société plus durable et plus enviable. Aujourd'hui, et comme souvent, je suis avec Popote.
Salut.
Et June Le Perse qui nous prépare une surprise.
Eh oui.
Affaire à suivre, je n'en dis pas plus pour le moment.
Dans les épisodes précédents, on avait abordé la limite planétaire qui est le changement d'usage des sols. Ça nous a amené à parler de logement, à parler du parc immobilier en France, de parler de logement participatif. Dans le dernier épisode, on a parlé d'une mine d'andalousite à Glomel qui vise à s'étendre. Et donc ça nous a mis en lien avec l'extractivisme. Et ça nous a amené au sujet qu'on aborde aujourd'hui, qui est la production de matières premières pour la construction, qui sont majoritairement des choses qui sont extraites du sol. Et donc du coup, aujourd'hui, on a envie de parler de matériaux de construction.
Eh oui, et donc du coup, je vous propose un petit quiz pour commencer. Trois matériaux à deviner par rapport à des petites caractéristiques. C'est question pour un matériau aujourd'hui.
Okay. Donc on dit son nom quand on a l'idée.
Ouais, voilà.
Peut-être on peut faire un buzzer.
Oui, un buzzer buccal. Ok, c'est parti. Je suis obtenue par fusion à partir de sable et de verre recyclés. J'ai été inventée en 1938 et mise en œuvre dans la construction dès les années 60. Je pollue 12,6 mètres cubes d'eau par mètre carré et produis 3,7 kg de CO2 par mètre carré. Attention, j'ai un excellent pouvoir isolant. Je suis couramment utilisée en isolation des murs intérieurs de couleur jaune revêtue d'un papier craft. L'albi. Oui, l'albi.
La laine de verre.
Mais oui, bravo, l'albi. Deuxième, vous êtes chaud, on fait le deuxième.
Allez.
J'ai été inventée en 1840. Je suis le fruit d'une réaction endothermique entre du calcaire et de l'argile. Endothermique signifie une réaction nécessitant de la chaleur, et plus précisément 1400 degrés Celsius. Tellement utilisée, si j'étais un pays, je serais le troisième pollueur après les États-Unis et la Chine. Contrairement à mon cousin, le mortier de chaux, je ne suis pas réversible à tout jamais. Je resterai transformée telle que je suis. Je suis d'une excellente rigidité. Et je peux porter du lourd sur de grandes portées avec mon ami le fer.
Je n'ai pas.
L'albi.
Oui, l'albi. L'albi.
Le béton, le ciment.
Mais oui, le ciment. Bravo, l'albi. Mais qu'est-ce que t'es doué, l'albi. Je sens que tu t'y connais en matériaux quand même. Un dernier pour la route. Je suis diversifiée selon la localité. Je peux avoir une empreinte carbone neutre comme lourde, selon ma finalité. Cuite à 900 degrés Celsius, je peux protéger des intempéries. Pour les parois verticales, crue souvent je suffis, et pourtant souvent cuite je suis. Et toujours réversible je reste toutefois.
Popote. La terre.
Oui, tout à fait. Bah voilà, c'était juste la fin. C'était je suis utilisée depuis la nuit des temps, le premier matériau utilisé par l'homme pour mes abris. On trouve sous nos pieds. Je suis la terre. Bravo Popote.
Oui.
2 points l'albi, 1 point Popote. L'albi, tu as gagné.
Et je gagne quoi?
Non, y a pas de... Eh ben merci beaucoup à vous les filles d'avoir participé. Merci.
Bravo l'albi pour cette déculottée.
Alors.
Moi j'ai pas le culte du béton.
Ah bah moi c'est ma passion. Hein.
On le savait.
Merci June pour ce quiz qui met bien en évidence que certains matériaux du coup sont moins polluants que d'autres. Et du coup ça permet un petit peu d'introduire le sujet avec les différents matériaux qu'on peut classer en gros en 2 catégories. Les matériaux qu'on va appeler conventionnels, donc qui sont utilisés aujourd'hui couramment, le béton armé, les laines de verre, etc. Et tout ce qui va être matériaux biosourcés et géosourcés. Donc biosourcé, pour expliquer un petit peu, c'est tout ce qui va être qui provient directement de la nature, donc le bois, la paille, etc. Et géosourcé, c'est que ça va être la source est proche de là où on construit. Voilà, c'est deux. Parce qu'on pourrait prendre du bois qui vient de l'autre bout de la planète, donc il est biosourcé, mais il n'est pas géosourcé. Ah, géosourcé, ça vient de la forêt d'à côté de la
planète. L'idéal, ça serait d'avoir les deux, en fait.
Exactement.
C'est un peu comme bio ou local.
C'est ça.
C'est ça.
Mais pourquoi pas bio et local, ouais, quoi.
C'est ça. Et ben, quand c'est les deux, c'est encore mieux.
Bah oui.
C'est comme la nourriture. Et donc, peut-être on peut commencer par faire un petit tour, en tout cas, de ce qu'est aujourd'hui la construction conventionnelle, parce qu'en fait, aujourd'hui, elle représente quand même 97% des logements neufs qui sont construits. Donc, c'est quand même pas rien.
Mais oui, c'est énorme. 97%, c'est quasiment l'entièreté, quoi. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il n'y a que 3% qui est géosourcé ou biosourcé.
C'est ça, qui est considéré comme construction écologique.
Ok.
C'est ça. Après, la législation va changer, enfin change, et du coup, théoriquement, ces parts-là devraient augmenter petit à petit. Et du coup, pour balayer un petit peu les inconvénients de la construction conventionnelle, parce que en fait, c'est quand même vachement bien, ça permet de faire des super ponts, ça va vite, ça coûte quand même relativement pas cher.
Bah oui, ça coûte.
Donc pourquoi est-ce que on critique la construction conventionnelle? Du coup, le secteur du bâtiment, alors compris construction et après usage des bâtiments, c'est quand même 83% des consommations énergétiques et 23% des émissions de gaz à effet de serre en France. Donc en fait, pour la santé humaine et pour la biodiversité, on voit bien que ça a un gros impact, quoi.
On est en plein dans une des activités humaines qui est responsable. On a évoqué dans d'autres émissions effectivement l'agriculture, mais la construction a son lot aussi, en fait.
C'est ça, exactement, ouais, complètement. En plus d'artificialiser les sols, et ben ça génère des gaz à effet de serre et puis d'autres polluants. Enfin, on peut en citer à l'appel. Mais pour les humains, en tout cas, il y a tout ce qui est les COV, les composés organiques volatiles. L'air intérieur est 7 fois plus pollué que l'air extérieur, quand même, d'une manière générale. Et un autre problème, en tout cas, que pose le conventionnel, c'est la non-réversibilité des matériaux. Ça, c'est des chiffres aussi qui sont un peu vertigineux et qui font flipper. Genre, c'est que sur les 100 milliards de tonnes de matériaux qui sont consommés chaque année dans le monde, il y en a seulement 8,6% qui sont réutilisés. Donc en fait, on utilise des matériaux, c'est monstrueux, quoi.
Ouais.
Et le truc, c'est qu'il y a beaucoup de ces matériaux, en fait, qui sont pas réutilisables tels quels et qui vont redemander de l'énergie pour les retransformer si on décide de les réutiliser, quoi.
Je vous propose qu'on continue pour cette émission. Nous avons été à la rencontre de Cédric du Bureau d'études thermiques pour nous donner un peu des informations sur les matériaux.
Ouais.
Je propose qu'on l'écoute, du coup. On le laisse se présenter ?
Ouais.
Ok. Est-ce que tu peux présenter qui tu es ?
Oui, tout à fait. Donc Cédric May, donc je suis gérant du bureau d'études B3E à Ifignac. Donc on réalise des missions de conseil, des missions d'audit et des missions d'études, que ce soit donc sur tout type de bâtiment, pour le neuf ou la rénovation.
Ouais, est-ce que tu peux nous expliquer du coup ton métier en quelques mots ?
Donc pour les études donc, qui vont concerner les bâtiments neufs, donc il y a des obligations de réalisation d'études, puisqu'il y a des obligations d'atteinte de performance, de résultats. Et puis concernant les études qu'on va faire en rénovation, tout ce qui au niveau de l'habitat, aujourd'hui il y a tout le système des aides à la rénovation énergétique. Donc on est RGE, on monte les dossiers d'aide également. Et donc en fait dans l'idée c'est apporter beaucoup de conseils, prioriser les actions de travaux, travailler également de plus en plus sur les gestes et les comportements aussi au quotidien. Les petits gestes qui permettent de réduire les consommations. Aujourd'hui, en fait, c'est pour tout le monde, c'est pour pouvoir accompagner tout le monde dans la rénovation, qui est devenue très compliquée. On entend tellement de choses et son contraire que les gens sont complètement perdus. Tout est fait, enfin tout normalement devait être fait pour aller vers de la simplification et tout va vers de la complexité, de plus en plus, donc, et à tous les niveaux.
Donc en fait, Cédric, il se positionne en anticipation un petit peu en amont de la construction, effectivement, on voit bien. Donc ça, pour tout ce qui est construction neuve, c'est un passage obligatoire de passer par une étude thermique aujourd'hui.
Dans la rénovation, en gros, c'est si on veut avoir des aides, que c'est obligatoire de se faire accompagner, notamment par l'accompagnateur Rénov, que nous a expliqué Cédric. Mmh.
On est agréé accompagnateur Rénov depuis. Okay. On a reçu l'agrément depuis mars.
D'accord.
Donc il y a un mois là maintenant.
Okay.
Donc c'est un dispositif que l'État a rendu obligatoire pour l'accompagnement des ménages pour les rénovations d'ampleur. Ils ont mis des choses en place en fait, applicable au 1er janvier, et là il vient d'avoir un rétropédalage. Notamment vers l'autorisation de pouvoir continuer des opérations monogestes, donc avec en monogeste, c'est-à-dire je remplace ma chaudière par une pompe à chaleur par exemple, mm-hmm. alors que la priorité serait plutôt d'isoler les bâtiments, mm-hmm. sinon voilà. Et ça en fait, donc le but de l'accompagnateur Rénov et d'amener les gens vers la rénovation globale, c'était de limiter ça, puisque mmh. c'est prouvé, voilà, ça fait 15 ans que c'est fait, et que c'est aidé, et que c'est pas pertinent.
Mmh. C'est
et les gens, c'est qu'est-ce qui pue, qui fait du bruit, qui consomme de l'énergie, il faut en remettre tous les mois, ou voilà, je reçois des grosses factures, c'est quoi ? C'est le chauffage, donc je me concentre sur mon problème apparent, qui est le chauffage.
Ouais.
Tout ce qui touche à l'isolation et au bâti, ce sont des... dans des phénomènes qu'on ne voit pas. On ne reçoit pas de facture de par sa mauvaise isolation, entre guillemets. Donc, c'est les consommations de chauffage. Donc, les gens font les mauvais raccourcis. Et grâce aux syndicats du type KPF, Fédération du bâtiment et au lobby, et ben là, ça y est, on fait un rétropédalage au moins jusqu'à la fin de l'année. Donc, c'est du grand n'importe quoi. C'est... Je ne dirais pas qu'on se dirige, mais ça montre en tout cas, encore une fois... absence de vision globale, déjà ne serait-ce qu'à court terme.
Ouais.
Je parle même pas du moyen et long terme.
Moi, je trouve que ça montre l'extrait, là, ça montre quand même qu'il y a. Ça pose question en fait sur qui est-ce qui gouverne dans notre pays. J'ai l'impression. Je vais faire un gros parallèle avec l'agriculture, en fait, où il y a des annonces qui sont faites par un gouvernement qui a peut-être on peut espérer un petit espoir de répondre à l'enjeu climatique. Je pense au fait de réduire les pesticides. Pour le bâtiment, l'accompagnateur Rénov, inciter à aller vers, encourager vers des rénovations performantes. Et après, il y a des syndicats qui se soulèvent, mais les gros syndicats, la FFB ou la FNSEA, pour citer des gros syndicats qui ne défendent pas forcément l'intérêt commun, mais leur propre petit intérêt, je dirais, et les lobbies industriels, et en fait, rétropédalage des deux côtés, quoi. Et ça met un peu... je me dis, qui est-ce qui gouverne ce pays, en fait ? Qui est-ce qui va se positionner comme garant de... du bien commun, en fait.
Ouais, c'est clair, et puis en plus on le voit bien, c'est vraiment ce jeu-là entre les lobbies, l'État et en même temps des associations et des personnes en fait qui défendent quand même ce bien commun, et petit à petit il y a des avancées, etc. On va l'entendre après, justement, notamment sur les différentes réglementations de la construction, parce qu'en fait du coup il y a des réglementations, notamment la dernière, la RE 2020, qui dans les textes, c'est hyper pertinente en fait, avec des fiches qui vont analyser vraiment chaque matériau, son cycle de vie, donc de sa construction à son comment est-ce qu'on le retraite, etc. Mais on voit comment à chaque fois les lobbies arrivent à déjouer ça et à rendre inactives en fait finalement les réglementations qui existent. Ouais, c'est, ça pose question. Ça pose question.
Mais du coup, je propose qu'on écoute une clarification sur la réglementation, la RE 2020 effectivement, qui est en vigueur.
Donc en fait, donc aujourd'hui, donc ce qui est mesuré, donc il y a les indicateurs qu'on retrouvait déjà dans la RT 2012, donc le BBio, donc est l'indice bioclimatique du bâtiment. Donc pour faire assez simple, c'est la compacité, l'orientation et le niveau d'isolation qui vont être pris en compte. La consommation énergétique dite réglementaire. De l'usage du bâtiment, donc qui va être lié le chauffage, aujourd'hui le refroidissement, du moins le besoin de rafraîchissement, à contrario comme la mise en place de protection solaire pour abaisser ce besoin-là, l'éclairage, le besoin d'eau chaude et tout ce qui est auxiliaire de consommation. Donc on va retrouver comment les consommations qui sont liées à la VMC au système de chauffage. Ne sont pas pris en compte dans ces calculs dits réglementaires les consommations dites domestiques, comme le frigo, le lave-vaisselle, le lave-linge, ça rentre pas en compte dans les calculs. Voilà. Et donc aujourd'hui, donc la grosse nouveauté avec l'Aéro 2020, c'est vis-à-vis des matériaux, l'impact carbone des matériaux. Donc on va aller regarder les fiches qui sont donc FDES pour fiches de déclaration environnementale et sanitaire, qu'on va trouver sur la base INIES. comme en Basignès, c'est Institut National des Indicateurs Environnementaux et Sanitaires, qui en fait est une base qui répertorie donc l'ensemble des fiches donc de déclarations environnementales et sanitaires qui sont produites par des fabricants de matériel et de matériaux, dans lesquels on retrouve toute une série d'impacts, dont notamment donc l'impact carbone et l'impact des émissions de gaz à effet de serre, mais également l'impact sur les consommations d'eau, les consommations énergétiques, les impacts sur les milieux environnementaux également.
Donc voilà, exact,
c'est ça,
par exemple,
tout à fait.
C'est propre,
par exemple, voilà, à de l'extraction, tout à fait. Et donc ça, tout ça va rentrer en ligne de compte. Ça, c'est sur la fiche de déclaration. Maintenant, dans un calcul réglementaire sur un programme neuf, c'est seulement en fait l'impact carbone qui va être pris en compte, lui. Okay. Donc voilà, les 7 ou 8 autres indicateurs qui sont présents sur la fiche pour le moment ne sont pas pris en compte.
D'accord, en gros c'est pour la conformité.
Pour le bâti, c'est ça. Pour aller chercher une conformité réglementaire.
Pour le RE 2020,
ouais,
il n'y a que l'impact carbone qui compte.
Tout à fait.
C'est ce critère-là qui fait que ça va être de plus en plus compliqué.
Oui.
De passer en parpaing, laine de verre.
C'est ça. Tout ce qui va être issu du parpaing, de la laine minérale, ça va être de plus en plus compliqué, effectivement, à cause de l'impact carbone. Quand on analyse en fait un peu les fiches, il y a également l'impact sur le plan des consommations énergétiques pour fabriquer le produit. Et où on va avoir des valeurs en fait sur le carbone, comme une laine de bois par exemple, par rapport à une laine minérale, en termes d'impact carbone, on va avoir un ordre de grandeur en termes de valeur qui va être relativement proche, ce qui peut paraître assez étonnant. Par contre, c'est quand on regarde d'un peu plus près donc les autres indicateurs des fiches de déclaration, qui eux ne sont pas pris en compte dans le calcul RE 2020, et notamment sur la consommation énergétique pour la fabrication, où là en fait on a des très très grands écarts. Donc le jour où ces indicateurs-là vont être pris en compte, les matériaux dits aujourd'hui conventionnels, ça va être mis en lumière qu'il faut vraiment plus les utiliser.
Je sais pas vous, mais moi ça me laisse un peu le cul sur la chaise. Il y a quand même un truc de fou. Il y a des fiches techniques qui sont faites avec tout plein où sont posés les différents problèmes et l'impact sur le vivant. En fait, on choisit un critère pour dire qu'on fait quelque chose et on met pas trop les autres en lumière parce que ça risquerait de rendre impossible le parpaing, la laine de verre et autres matériaux polyuréthane.
Est-ce qu'on se ferait pas une petite pause musicale? Avec une chanson qui est un peu dans le thème, parce qu'elle est un peu morose et pas défaitiste, mais
cynique.
Cynique, exactement. Cynique et ironique, moi, je trouve.
Oui.
Et donc, c'est une chanson de Brigitte Fontaine et Ariski qui s'appelle « C'est normal ».
En dessous. Des fois il y a des fuites, alors ça s'accumule. Puis s'il y a une étincelle, ça explose, c'est normal. Et qui dit explosion, dit détonation. Tout le bruit que t'as entendu tout à l'heure, voilà. La 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 la. La 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 la. La 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 la. C'est normal, je t'ai expliqué. Il y a eu une explosion.
Oui.
Et l'agitation moléculaire due à cette explosion.
La quoi?
L'agitation moléculaire.
Ah ouais.
Provoque une élévation thermique suffisante pour enflammer les matières environnantes.
Ouais, ouais.
C'est alors ce qu'on appelle la combustion. C'est normal.
Ah,
tu comprends?
Ouais, ouais.
La 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 la.
Mais alors...
la la.
Mais...
la la.
La la la.
la 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 la.
Non, je voulais savoir. Tout l'immeuble, il est en train de brûler, c'est bien ça?
Ben oui, écoute. Les matières qui ont servi à la construction de cet immeuble sont très fragiles, tu comprends?
Oui.
C'est normal parce que de toute façon, il n'y a que des familles d'ouvriers et des étrangers et quelques improductifs.
Ouais.
Alors le feu s'empare très facilement des matières.
Ouais.
Ça se propage. Nous sommes donc en présence d'un incendie.
Ah,
c'est
incendie.
Normal.
Ouais, ouais, ouais.
Ouais. La 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 la. Qu'est-ce qu'il y a encore?
Je sens pas hein? Comme si on commençait à tomber là un
Écoute, oui. Essaie de comprendre, c'est très simple.
Oui.
Tu te souviens la combustion,
ouais.
La destruction de l'immeuble par les flammes?
Oui.
Bon, ça veut dire qu'en dessous, les murs et les étages ont disparu et que nous ne sommes plus soutenus par rien.
Ouais.
Or, une chose qui n'est plus soutenue par rien tombe. C'est ce qu'on appelle la pesanteur, c'est normal. La 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 la.
Mais alors, on va tomber.
La la la.
Mais oui. Quatrième étage.
C'est tout à fait normal. C'est l'attraction terrestre. La.
D'accord.
La 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 la. Fatigante.
Pardon.
On est en train de tomber.
Oui.
Or, tout corps tombe à une vitesse définie.
Oui.
Et en arrivant au sol, il subit une décélération violente qui amène la rupture de ses différents composants. Par exemple, les membres se séparent du tronc,
ouais.
Le cerveau jaillit hors de la boîte crânienne et se tourne.
Ouais.
Dans ces conditions de déconnexion, il est évident que le phénomène de la vie ne peut pas se maintenir, c'est normal. Tu comprends?
Ouais, ouais.
Et voilà, on est bien sur Radioactive dans l'émission C'est par où demain et on vient d'écouter la fabuleuse chanson de Brigitte Fontaine et Areski. On a vu en début d'émission qu'on arrivait un peu à la fin de l'ère du tout béton et de la laine de verre. Mais alors, c'est par où demain? Et ben, je vous propose d'écouter un dernier extrait avec notre ami Cédric.
Toi, qu'est-ce que c'est ton ressenti sur justement quand tu présentes aux gens différentes solutions d'isolation? Même s'ils ont déjà des choses en tête, est-ce qu'il y en a qui changent en se disant « Ok, c'est un truc biosourcé, etc. » ou il y a vraiment la contrainte financière qui est là et qui est difficilement répressible?
Alors, la contrainte financière. Là, du coup, j'ai idée reçue. Comme je l'ai expliqué un peu plus tôt, la consommation énergétique pour fabriquer un mètre carré de laine minérale en fait est telle que l'augmentation du coût de l'électricité que chaque habitant a reçu, les industriels ils l'ont reçu aussi. Mmh. Ce qui fait qu'en fait aujourd'hui on arrive en fait à un équilibre des prix entre par exemple de la laine de bois et de la laine minérale, et par exemple des produits comme la ouate de cellulose vont à épaisseur et performance égale, j'entends, vont aujourd'hui être moins chers que de mettre de la laine minérale en œuvre. Maintenant, sur le fait de faire changer les gens d'avis, il n'y a pas que le prix, justement. Il y a le confort, notamment le confort d'été. Alors, le fait d'employer des matériaux biosourcés, paradoxalement, c'est que dans un calcul RE 2020, le matériau biosourcé est beaucoup plus dense qu'un matériau minéral ou dérivé du pétrole. Donc, comme il est dense, on va avoir beaucoup de déphasage, donc c'est un très bon retardateur contre la surchauffe. Ça n'a pas d'impact sur le potentiel besoin de rafraîchissement en fait du bâtiment. Donc ça c'est toujours un peu dommage. Mais sur le confort, on va avoir un réel impact. En gros, à épaisseur égale, parce qu'il faut comparer les choses qui sont comparables, à épaisseur égale, donc si on prend 200 mm de laine minérale en toiture, on va avoir un déphasage qui va être autour de entre 2 et 3 heures plus proche des 2 heures que des 3 heures. Donc, c'est-à-dire que la surface de la couverture, mettons des ardoises, qui peut monter en plein été à 70 ou 80 degrés, 2 à 3 heures après, elle va rayonner dans la pièce. Donc en fait, la chaleur aura traversé l'isolant. 200 mm de fibre de bois, on va déjà être de l'ordre de 7 heures. Donc, ce qui fait qu'en termes de confort, on a un matériau qui va répondre en fait à plein d'enjeux. C'est là où vraiment l'impact du choix du matériau est énorme, parce que le matériau qui n'est pas mis au bon endroit, je vais éviter de parler de mauvais matériaux, mais comme en tout le cursus consommation à la fabrication, ressources sur la laine minérale, avec la finalité typiquement qui ne va pas aider à lutter contre la surchauffe, et où les gens vont faire quoi ? Vont aller se jeter sur un climatiseur aux premières chaleurs pour mettre des climatiseurs mobiles pour rafraîchir le bâtiment. Bah là, en fait, on se retrouve avec une conséquence d'un matériau qui ne répond pas aux enjeux en fait, aujourd'hui. Là où, avec un biosourcé, qui va avoir des consommations de fabrication qui vont être beaucoup moindres, issus de matériaux qui vont être renouvelables, on reste sur du bois, qui vont apporter du confort en hiver, mais également en été, ça va éviter de régénérer, en fait, un appauvrissement des ressources par l'achat d'un climatiseur et des consommations supplémentaires qui vont être engendrées par le fameux climatiseur. Donc faire du vertueux, on peut. Voilà, c'est qu'on peut avoir une boucle qui peut être très vertueuse et très cohérente, ou une boucle en fait qui va être destructrice et énergivore.
Bon, et c'est presque encourageant en fait. La montée du coût de l'énergie va jouer son rôle de rééquilibrage de prix, qui va finir. Enfin, on peut espérer qu'il y ait des prix plus cohérents pour des matériaux énergivores.
Effectivement, en plus avec ces matériaux dits naturels, ça porte beaucoup d'avantages qu'on a entendu sur le confort dans l'habitat. Il y a aussi la partie sur la santé humaine où du coup forcément ça apporte moins de polluants dans les habitats, etc. Pour les personnes qui mettent en œuvre aussi.
Donc pour les salariés du bâtiment.
Exactement.
Oui, non mais après sur un point de vue aussi risque de santé lié au travail, il y a aussi toute la manipulation. Enfin, peut-être que de la terre en fait c'est plus léger que de trimballer des parpaings. Enfin, tu vois, il y a peut-être.
Non, c'est vrai qu'après c'est un peu du coup le côté. Après moi je connais plus la terre crue, en fait l'usage de la terre crue. Mais c'est un peu le pendant, et pourquoi est-ce l'autre côté, le travers de l'éco-construction, je trouve, c'est que ça demande beaucoup plus de personnes, en fait, avec des techniques qui vont demander parfois plus d'investissement du corps. Après, si on mécanise, on a plus ce problème-là. Mais c'est sûr que c'est des techniques qui demandent beaucoup plus de personnes, en fait. Au lieu d'aller utiliser l'énergie qui est présente dans les énergies fossiles, en fait, pour transformer les matériaux, etc. C'est de l'énergie humaine, en fait, qu'il va falloir mettre. Mais du coup, ça permet aussi de voir. C'est la vision du chantier, la vision de la construction qui devrait être un peu changée. Mais ça va avec la vision du monde où tout doit aller très vite, on veut tout de suite, etc. Alors que finalement, si notre rapport au temps changeait et qu'on acceptait que la construction, ça peut être saisonnier, tout comme l'agriculture, en fait, parce que pour construire avec des matériaux naturels, y a des saisons à respecter, des temps de séchage ou des choses comme ça qui sont plus longs. Donc c'est vraiment un autre rapport au temps. Et à l'idée de y ait que des personnes hyper formées et qui peuvent faire les travaux, en fait. Quand on prend la terre, par exemple, la construction terre, donc qui est, comme on l'a entendu au tout début, qui est un mode constructif hyper ancien. En fait, à l'époque, il y avait aussi des personnes du village qui aidaient. C'était des techniques de construction paysanne, en fait, quoi. Donc accessible à tout le monde. Et aujourd'hui, on pourrait faire ça. Et du coup, ça me donne envie de parler du concept d'intensité sociale. C'est-à-dire que autour d'une construction, aussi, on peut aussi créer du lien social. En fait, on voit bien que dans la société, on est en perdition de lien social. Et donc ça pourrait permettre aussi de recréer des endroits où on fait du lien social par le biais des chantiers participatifs, quoi.
Mais non, c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est souvent des occasions de chantiers participatifs et que t'es pas obligé d'avoir une grande connaissance, de t'y connaître en bâtiment ni rien. Tu peux patouiller dans la terre et faire des enduits, effectivement. Et c'est des choses qu'on retrouve beaucoup dans l'éco-construction aussi, les gens qui prennent le temps plutôt que de payer quelqu'un à faire. Enfin, du coup, c'est de se réapproprier de ce savoir-faire et de construire son nid.
Carrément, après, il y a des étapes qui sont... En fait, il faut se faire accompagner d'un professionnel parce qu'il y a des étapes clés, etc., dans la structure du bâtiment, des choses comme ça. Mais après, dans la réalisation, il y a plein d'étapes, effectivement, qui peuvent être faites par...
Mais après, c'est vraiment qu'est-ce qu'on fait de notre temps, quoi. Et, et c'est vrai que les matériaux, enfin, le parpaing, le béton, c'est quelque chose qui a été qui a eu un tremplin au moment de la Seconde Guerre mondiale, parce que après, ça avait quand même cette capacité fabuleuse de pouvoir donner des formes très rapidement à des bunkers, des choses pour se protéger, notamment des axes, des enfin
Puis des après, ponts. Pour construire des logements pendant le baby boom aussi.
Après-guerre, tout à fait. Mais sûrement, en fait, on s'est déconnecté du temps naturel quelque part. Et on vit à un rythme qui est en fait pas normal. Mais pas normal du tout. Et qu'on retrouve également, là, je fais un autre parallèle... dans l'agriculture, quoi, avec le nouveau modèle agricole post-guerre aussi qui s'est mis en place pour produire vite. Mais peut-être qu'on a tout intérêt à retrouver un rythme de croisière viable, de fait plus ralenti. Est-ce qu'on a des conseils? Est-ce que vous avez des conseils de lecture, vous les filles, à propos de cette émission?
Oui, moi j'ai un conseil de... Alors c'est pas de la lecture, mais c'est un reportage à regarder, du coup, qui est un peu... il faut se préparer psychologiquement avant de le regarder, c'est un peu dur.
On l'a déjà recommandé,
non ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est bien en lien comment l'homme a mangé la terre. Enfin, ça s'appelle juste L'homme a mangé la terre, qui est un reportage Arte, qui montre le lien, justement, entre l'extractivisme et la construction.
Okay. Super, ok.
Moi, c'est plus sur une échelle individuelle, donc peut-être que ça peut se faire en lien, mais c'était une chaîne que j'aimais bien qui s'appelle Un pingouin dans le désert, parce que c'est un couple qui présente son projet de construction sur un terrain, et donc du coup, eux, comme ils veulent construire sur de la petite surface, ils ont construit, je crois, une maison de... Il me semble que c'est 30 ou 50 mètres carrés, enfin vraiment une petite maison pour deux, quoi. Mmh. Et donc du coup, je trouve que ça questionne beaucoup sur toutes ces questions de sobriété, etc. Et voilà, j'aime bien parce qu'ils expliquent toutes leurs réflexions et donc du coup, ça amène à réfléchir quand on voit leur parcours.
Trop chouette.
Ouais, trop chouette. Ça donne des idées, ça alimente
Des
idées.
Puis ça montre qu'il n'y a pas une solution idéale à suivre, parce que, enfin, en fait, c'est un peu je trouve que c'est un peu le propre de l'État, c'est de vouloir tout normaliser.
Bien sûr.
Alors qu'en fait, il y a plein de solutions qui sont adaptées à tout le monde.
Mais carrément.
Et après, au climat, aux besoins des gens, voilà.
Ouais, aux ressources locales, en fait, qu'est-ce que tu trouves ou pas.
Vive la diversité, en fait.
C'est ça. Il y a plein de gens qui œuvrent.
Diversité. C'est assez systémique. Donc on retrouve ce besoin de diversité, de solutions dans la construction, de biodiversité.
Oui.
Vous pouvez citer, si cette émission vous a plu, vous pouvez la retrouver sur notre page Facebook, Extinction Rebellion
Saint-Brieuc.
Vous pouvez agir, interagir via la page Facebook. Ah. Et en espérant que cette émission vous ait plu. Et on se retrouve prochainement.
À bientôt.
À bientôt.
C'est par où demain? C'est par où demain? C'est par où demain?
C'est par où demain?
Qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit mollo sur le destroy.
C'est par où demain?
L'émission qui fait du bien. Surtout aux éco-anxieux.